Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me mets en action, je me mets en danger en fait. Hein. Je me dis, bon, il faut que je parte. Il faut que je parte de l'entreprise, je sais pas trop. Mon corps me parle parce que, en fait, je vais un peu la boule au ventre les matins. Clairement pas heureux tous les jours d'aller au travail, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être rentré dans une routine où je mets le cerveau un peu en mode off et j'y vais, quoi. Donc mon corps me parle, je me dis, bon, faut faire quelque chose, quoi. Je peux pas continuer comme ça, voilà, dans cette carrière-là, parce que on m'a dit d'aller dans cette carrière-là, parce que c'est confortable, parce que si.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours de Théo. Après une potentielle carrière toute tracée de consultant chez Capgemini, il a décidé de se mettre en risque et de démissionner pour se mettre en chemin. Il se lance alors dans le dropshipping, mais c'est à la fois un échec en termes financiers et pour ses valeurs. Il capitalise sur tout ce qu'il a appris pour se lancer en freelance comme gross marketeur. Aujourd'hui, Théo a créé Beyond Gross et concentre son énergie pour aider les entreprises à impact. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Théo Guillaumin. Bonjour Théo.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors j'ai choisi un ballon de beach volley, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est très sportif et j'habite en ce moment à Valencia en Espagne. Le beach volley est une discipline sportive qui est très pratiquée là-bas, donc je me suis pris au jeu et ça fait un peu plus d'un an et demi que j'y joue et j'adore ça.
Voilà. Tu joues à quelle fréquence?
Toutes les semaines, j'irais deux ou trois fois par semaine. Voilà. Je commence petit à petit aussi à rejoindre les tournois, donc, petit à petit ça se professionnalise entre guillemets.
Top. Est-ce que tu pourrais nous, avant de parler du coup de ta vie aujourd'hui en Espagne, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Ouais, bien sûr, j'ai grandi en Haute-Loire, dans le centre de la France, dans la région d'Auvergne. La préfecture de la Haute-Loire, c'est Le Puy-en-Velay, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, c'est une petite ville qui fait à peu près 30-40 000 habitants. Et moi, j'ai grandi à une demi-heure du Puy-en-Velay, donc vraiment dans un coin très rural. Voilà, j'y suis actuellement en ce moment d'ailleurs là. Et si je regarde par la fenêtre, je vois beaucoup de végétation, beaucoup de vert. C'est une région qui est très calme, donc voilà, j'adore ça, j'adore y revenir.
Et quel type de petit garçon t'étais?
J'étais un petit garçon avec la tête dans les étoiles tout le temps. On me disait souvent que j'étais un peu trop dans la lune. Je pense que j'étais un rêveur. J'étais souvent distrait. Il m'est beaucoup arrivé de perdre mes affaires. Voilà. Donc c'est au grand malheur de ma maman qui s'est arraché les cheveux de la tête plusieurs fois, mais à côté de ça, j'étais aussi un peu en avance, je dirais, sur ma génération entre guillemets, ou sur mes copains, les copains de mon âge, parce que j'ai sauté une classe quand j'étais petit. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre, j'étais très à l'aise dans ce milieu qui est l'école.
Comment tu le vivais quand on te reprochait d'être dans la lune?
Pas très bien, ouais, pas très bien, parce que je pense que déjà c'était vrai, Mais c'est souvent, en fait, on me le reprochait de manière péjorative, alors que je pense que, avec du recul, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un de très curieux, qui aime réfléchir, qui aime penser, qui aime s'interroger un peu sur le monde qui l'entoure. Donc, typiquement, par exemple, un exemple, quand je suis arrivé à Valence, je voyais des perruches partout, des oiseaux qui volent dans le ciel et qui finalement n'existent pas en France, je crois, ou très peu, peut-être dans le sud de la
France. Dans le sud de Marseille, on en a de temps en temps.
Ouais, il y en a. Ok. À Valence, il y en a partout et je trouvais ça incroyable, quoi. Donc, je passais mon temps quand je marchais dans les parcs, etc., à regarder un petit peu en l'air. Voilà. Je trouvais ça trop beau. C'est un exemple, mais en gros, j'ai tout le temps été un peu comme ça et c'est vrai que, on me le reprochait alors que j'ai construit un peu ma curiosité, mon envie d'explorer le monde un peu avec cette personnalité-là.
Et quand tu étais petit garçon, c'était quoi tes rêves pour plus tard ?
Je changeais tout le temps d'idée. J'ai tout le temps, et aujourd'hui encore, j'aime beaucoup découvrir des choses, apprendre. Le beach volley, par exemple, c'est un sport auquel je jouais pas il y a quelques années. Et là, j'adore ça, quoi. Et puis, si ça se trouve, demain, ça sera autre chose. Donc, je changeais tout le temps d'idée. Voilà. J'ai toujours eu envie de réussir ma vie. Et après, ma définition de la réussite a évolué avec le temps.
Ouais. Ça, c'est un grand débat sur... là, il y a la définition de la réussite tout court et est-ce que on peut réussir sa vie ou est-ce qu'on peut... Parce que c'est Franck Lobdell qui disait si tu considères que tu peux réussir ta vie, ça veut dire que tu peux rater ta vie.
Ouais.
Grande question.
J'avais pas pensé à ça, mais oui.
Mais je t'en parle parce que clairement, quand je l'avais interviewé et qu'il m'a parlé de ça, je dis ouais, c'est vrai. Alors, il y a la définition de la réussite dans la réussite professionnelle, la réussite dans le quotidien, enfin de petits pas. Mais en effet, de se dire est-ce qu'on peut rater sa vie. Vous avez 2 heures.
Courage.
Allez. Et comment ça s'est passé du coup? Donc tu disais, donc t'étais bonne élève, t'avais sauté une classe. Comment ça s'est passé au moment du choix du coup de tes études supérieures?
Je crois que j'ai fait un peu un choix par défaut. Je pense que à ce moment-là, j'ai peut-être manqué de confiance en moi ou peut-être manqué d'affirmation de qui j'étais vraiment. Après, à cet âge-là, c'est vrai que c'est compliqué de savoir qui on est vraiment et ce qu'on a envie de faire. Donc, j'ai choisi. Déjà, j'ai choisi une filière économique et sociale au bac. J'aurais pu, je pense, partir dans n'importe quelle filière, mais j'ai choisi un peu ça par défaut. Et puis après, j'ai choisi une école de commerce et pareil, je pense que c'était un peu un choix par défaut aussi. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire, que j'aurais voulu faire.
Comme quoi?
Par exemple, je pense souvent que les études de psychologie, ça m'aurait énormément attiré. Voilà. Et je pense que j'aurais été même dans mon élément, quoi, concrètement. C'est un petit regret, on va dire, si je pouvais revenir en arrière, peut-être que je partirais là-dessus.
Après, il n'est pas trop tard.
Ouais, non, c'est vrai.
T'as quel âge?
Tout à fait. 30 ans.
Ouais.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je ferme jamais la porte à la reconversion, d'ailleurs. Un jour. Ouais. Ou un autre.
Une autre.
Ouais, pourquoi pas.
Et donc du coup, ES, école de commerce, là, à ce moment-là, une école de commerce, c'est quand même très générique, généraliste. On se dit, on peut faire à la fois du market, des RH, de la finance. Toi, tu as une idée en tête de ce que tu aimerais faire?
Pas vraiment. Je suis un copain qui, lui, est très intéressé par l'entrepreneuriat. Il est assez débrouillard là-dessus. Et qui est très intéressé aussi par la tech et par tout ce qui est digital, on va dire. Donc je le suis un peu, c'est un exemple pour moi sur cette partie-là. Donc là encore, c'est un petit peu par défaut, on va dire. C'est plus parce que je sais pas trop quoi faire finalement, quoi. Donc je vais essayer de suivre ceux qui sont autour de moi. Et voilà, petit à petit, je me dirige un peu plus vers ça, quoi. Plus vers l'entrepreneuriat et plus vers le digital, les technologies, quoi.
Et comment ton entourage réagit quand tu fais une école de commerce?
Bien, bien, bien. Je pense que c'est assez Pour le coup, mon oncle, lui, en a fait une aussi. Aujourd'hui, il a un poste, un très bon poste chez Hilti, qui est une entreprise qui fournit du matériel dans le secteur du BTP. C'est une entreprise assez connue, surtout les pros du BTP. Donc voilà, c'est un peu un modèle de réussite, on va dire, dans la famille, on va dire. Et donc, je pense que c'était plutôt bien vu que je suive ce modèle-là, quoi.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Ou ils font quoi toujours d'ailleurs, peut-être?
Ouais, mon père est médecin généraliste. Okay. Et ma mère travaille dans un hôpital en tant que technicienne de laboratoire.
D'accord, donc tous les deux dans l'univers médical.
Exactement, ouais.
Et pourquoi, du coup, psychologue, c'est pas une voie que t'as explorée à cette époque-là? Parce que, du coup, on est dans le médical.
Ouais, encore une fois, je pense que j'avais pas assez de recul pour savoir ce que je voulais faire vraiment et qui j'étais. Voilà, j'ai pas pris en compte qui j'étais vraiment pour le choix de mes études, quoi. J'ai plus pris en compte ce que la société attendait de moi, finalement. Voilà, si c'était à refaire avec le recul, effectivement, je pense que j'aurais choisi peut-être des études là-dedans, quoi.
Et donc, ton premier job, c'était chez Capgemini?
Ouais, j'ai fait une alternance quand j'étais en école de commerce. Et donc, j'ai été pris en alternance chez Capgemini dans le sud de la France, à Nice. Voilà, c'est encore une fois dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, on va dire que je continue un peu dans la voie que j'avais choisie par défaut. Ça a été assez compliqué au début pour moi parce que c'est un univers qui est assez complexe quand on vient juste de débarquer, qu'on sait pas ce que c'est un système d'information, par exemple, avant de rattraper un petit peu ces lacunes, entre guillemets, c'est un peu long. Enfin, Capgemini, c'est une boîte où il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs quand même. Donc, quand on vient d'un milieu plus commerce, il faut s'adapter, quoi, à ça. Ça prend un peu de temps.
Et pour toi, ça a été difficile?
Ouais, au début, j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter, ouais, effectivement. Et après, j'ai vu quand même quelques... Voilà, j'ai, on va dire, commencé à m'adapter, mais il y a quelques sujets qui m'ont dérangé. J'ai senti que on commençait à... Je pense que là, j'ai senti que... J'ai commencé à reconnaître mes valeurs et j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient un peu à l'encontre de mes valeurs, quoi.
Ouais. Voilà. J'avais interviewé le DG France de Capgemini, mais c'était peut-être pas à ton époque, François Mazon.
D'accord. OK. Ouais.
Qui est aujourd'hui, qui a 50 ans, est devenu avocat.
D'accord.
Ouais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour écouter sa petite voix. Et donc là, Capgemini, tu y restes 3 ans?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui fait que tu quittes Capgemini et que tu changes complètement d'univers?
Plusieurs choses. Déjà, le fait d'être dans un grand groupe et finalement avoir un peu la sensation d'être un pion parmi tant d'autres, c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. Je dirais que moi, j'ai toujours été quand même assez ambitieux, même si j'ai pris quelques choix par défaut pendant ma jeunesse, parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop qui on est et ce qu'on veut faire. J'ai toujours eu une ambition de me démarquer un petit peu et d'aller trouver ma voie et de réussir dans cette voie, entre guillemets, parce que la définition de la réussite, comme tu disais, elle peut être propre à chacun. Donc il y a cet aspect-là, le fait de ne pas me sentir à ma place finalement dans un grand groupe. Je dis souvent aussi que il y avait deux types d'anti-mentors chez Capgemini. Voilà. Que je fonctionnais beaucoup à ça, les anti-mentors. Donc je savais pas vraiment à qui je voulais ressembler, mais je savais à qui je ne voulais pas ressembler. Et c'est vrai que en fait je voyais du coup d'un côté un peu les commerciaux en costard qui devaient vendre des profils à des entreprises. Voilà, c'est leur travail, hein, après tout, donc il n'y a pas de jugement là-dessus, mais c'est vrai qu'une fois, moi en tant que profil, quand j'ai été parachuté entre guillemets dans une entreprise qui était Enedis à l'époque, le commercial qui a vendu mon profil à Enedis, j'ai plus jamais entendu parler de lui derrière. Alors que voilà, on avait une bonne relation, que il était super sympa, etc. Donc je me suis dit bon, bah, qu'il a cet objectif commercial qui fait que c'est un peu au détriment de l'humain et je trouve ça un peu dommage. Donc là, typiquement, je me suis dit moi, j'ai pas envie de faire ce métier-là, clairement pas. Et après, il y avait les profils un peu plus techniques qui étaient hyper doués, qui avaient énormément de compétences vraiment, qui étaient parfois des génies, qui arrivaient à faire leur travail du coup sur une journée en très peu de temps, en fait, en quelques heures. Et le reste de la journée, c'était beaucoup de baby-foot ou de Clash of Clans sur le téléphone, etc. Et je trouvais ça tellement dommage, en fait, finalement, de finalement ce potentiel de ne pas le développer auprès de projets qui vraiment pour moi peut-être, après encore une fois c'est objectif, valait plus la peine quoi, finalement des projets avec un vrai impact sur le monde quoi. Et donc je me suis dit j'ai pas envie d'abandonner le potentiel que j'ai.
Et donc là, tu prends conscience de ça. Comment tu te mets en action?
Je me mets en action, je me mets en danger en fait. Hein. Je me dis bon, il faut que je parte. Il faut que je parte de l'entreprise. Je sais.
Ton corps te parle?
Ouais, mon corps me parle parce que en fait, je vais un peu au boulot, la boule au ventre les matins. Je suis clairement pas heureux tous les jours d'aller au travail quoi. J'ai vraiment l'impression d'être rentré dans une routine où je mets le cerveau un peu en mode off et j'y vais quoi. Donc mon corps me parle, je me dis bon, faut faire quelque chose quoi. Je peux pas continuer comme ça voilà, dans cette carrière là parce que on m'a dit d'aller dans cette carrière là parce que c'est confortable, parce que si. Donc en fait à l'époque, j'avais rencontré une fille, ma copine de l'époque, qui elle était beaucoup plus aventurière que moi. Elle a fait des études d'infirmière, donc elle a commencé en tant qu'infirmière et après elle est devenue barista, donc travaillait dans le café, donc rien à voir. Et elle avait pas peur de vraiment agir quoi pour suivre ses rêves. Et c'est elle qui m'a poussé à me dire bon, on y va, est-ce que ça te dit de venir à l'étranger avec moi? Je lui dis bah ouais, allez c'est parti, parce que si j'y vais pas avec toi, j'irai pas quoi. Donc on est parti ensemble à Madrid. J'ai laissé Capgemini et j'ai commencé.
Tu parlais bien espagnol?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai appris l'espagnol sur le tard avec notamment avec une application qui s'appelle Duolingo, qui est un peu le béaba quand on commence une nouvelle langue. Voilà.
Et donc là, tu arrives en Espagne, tu démissionnes ou tu fais une rupture co avec Capgemini?
En fait, j'essaie de faire une rupture co parce que j'ai quand même, je pense, été un élément assez loyal et un bon élément. J'ai toujours eu à cœur de bien travailler quand même. Donc j'avais une bonne relation du coup avec ma hiérarchie. Donc j'essaie de faire une rupture co, mais ça passe pas. Voilà, c'est pas la politique de Capgemini de faire des ruptures conventionnelles. S'ils te laissent faire une rupture conventionnelle, c'est la porte ouverte à d'autres personnes en fait qui voudraient partir ailleurs, etc. Ce que je trouve dommage, parce que du coup ça, tu restes finalement dans un système. Enfin, t'es obligé si tu pars de chez Capgemini, c'est pour trouver une mission similaire ou un poste similaire, quoi. Donc ils laissent pas trop la chance à. En tout cas, à mon époque, il laissait pas trop la chance aux gens qui voulaient tenter des projets entrepreneuriaux, etc. Il y avait pas trop d'accompagnement. Je sais que dans certaines boîtes, il le faisait. Chez Schneider Electric, par exemple, il y avait un programme qui poussait à l'entrepreneuriat. Ça, c'était génial, quoi. C'est-à-dire que, ils accompagnaient les personnes à sortir de chez Schneider avec un programme qui poussait vers l'entrepreneuriat. Je trouvais ça incroyable, pour le coup. Chez Capgemini, c'était pas du tout le cas, donc ils m'ont refusé quoi, catégoriquement la rupture conventionnelle. Et voilà, je me suis retrouvé, voilà, il fallait que je démissionne quoi, que je démissionne.
Comment tu l'as vécu, le fait de devoir démissionner?
Je me suis dit que bon, j'étais déçu de pas avoir pu avoir cette rupture conventionnelle qui pour moi signifiait pouvoir percevoir des allocations chômage qui allaient me permettre de me lancer à mon compte avec un filet de secours. Et de l'autre, je me suis dit, bah ok, ça me conforte sur le fait que Capgemini c'est pas une boîte pour moi et que jamais j'y retournerai quoi. Jamais j'y retournerai. Donc en fait, c'était un mal pour un bien par rapport à ça.
Et là, donc, comment t'as fait immerger ton projet?
En fait, du coup, avec cet ami dont je te parlais tout à l'heure, qui lui est pas mal dans l'entrepreneuriat depuis son adolescence, il a toujours dû se débrouiller, on va dire, pour arriver en tant qu'étudiant à payer ses études et à sa vie quotidienne. Donc, il a toujours lancé des projets, notamment achat, revente de produits, etc. Il avait fait un voyage en Chine et il avait découvert des objectifs photo pour smartphone qui étaient à l'époque, quand tu sais, t'avais pas tout ce qui existe aujourd'hui sur les appareils photo des mobiles, donc tout ce qui est grand angle, etc. À l'époque, c'était assez révolutionnaire en France, on va dire. Donc, quand il a ramené ça en France, il a vu que tout le monde s'intéressait à ça et il s'est dit, OK, je vais lancer une marque là-dessus. Et ça a cartonné pendant quelques années. Ça s'appelait Pixter. Et donc, en fait, j'ai suivi cet ami, quoi, un peu d'assez près, enfin, en tout cas, le succès de son projet. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer, moi aussi, à mon compte, quoi, de proposer un pareil éventuellement, pourquoi pas, de faire de la revente de produits assez intéressants pour un public en France sur différentes niches finalement, ce qu'on appelle le dropshipping. Aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez cette notion, si ça vaut le coup de la redéfinir ou pas.
Ouais, tu peux peut-être la redéfinir pour ceux qui connaissent pas.
Ok. Alors, aujourd'hui, je suis pas forcément fier, hein, disclaimer, d'avoir fait du dropshipping. En fait, le dropshipping, c'est le fait de créer une marque avec des produits. Généralement, on parle de site internet de e-commerce, quoi, finalement, avec des produits que des utilisateurs vont pouvoir venir acheter. En fait, les produits sont généralement importés depuis un pays étranger ou depuis une autre marque. En l'occurrence, beaucoup la Chine. Et toi, ta valeur ajoutée en tant que commerçant, finalement, c'est le branding. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple sur un des produits que j'avais lancé. C'était un produit de décoration, donc un sac que tu vas mettre autour des pots de tes plantes pour décorer un sac en osier. À l'époque, aujourd'hui on le voit beaucoup, hein, dans toutes les décos, peut-être chez toi d'ailleurs, je sais pas, mais à l'époque on ne voyait pas beaucoup. Et donc en fait, ce sac là que moi je vendais sur mon site, c'était pas vraiment moi qui le produisais, il était produit ailleurs. Donc, moi, ma valeur ajoutée, entre guillemets, c'était le fait de créer un site qui allait pouvoir permettre aux gens de l'acheter, de créer une marque qui faisait rentrer ce produit dans un univers, etc. Et voilà, et de coordonner, on va dire, la logistique. Mais en soi, la marque qui le produisait, finalement, l'envoyait directement à mes clients. L'avantage pour moi, c'est que j'avais pas de stock.
Ouais, t'étais un intermédiaire.
J'étais un intermédiaire, exactement. Et donc, ça pouvait me permettre de travailler en étant où je voulais, sans contrainte financière, puisqu'il n'y avait pas besoin d'acheter un stock, il n'y avait pas besoin de payer des locaux. Et voilà, de tester sans grand risque financier, finalement, un projet.
Et rapidement, du coup, parce que tu avais quand même cet enjeu, du coup, t'avais pas de chômage, tu as pu rapidement gagner ta vie pour pouvoir subvenir à tes besoins.
Non, pas vraiment. En fait, j'ai un peu succombé aux sirènes, toujours pareil, hein, parce que j'écoutais un peu ce qu'on me disait de faire et ce qui fonctionnait. Et j'avais succombé aux sirènes du dropshipping, qui à l'époque, c'était un peu la promesse de l'Eldorado. Et en fait, c'est très compliqué, surtout quand on a peu de notions sur le e-commerce, le marketing en ligne, etc. C'est pas si simple à lancer. Ça paraît simple, hein, c'est-à-dire qu'en une semaine, on peut créer un site web et lancer un produit. Et en soi, c'est pas si simple. Les gens, ils se rendent bien compte de la supercherie, on va dire. Il y a énormément de choses à gérer. Il y a effectivement la partie un peu technique avec le site. Il y a la partie marketing. Il y a la partie customer care. Il y a la partie. Enfin voilà, c'est pas simple comme on le présente. Et d'un côté, tant mieux, parce que c'est un projet qui, finalement, au niveau éthique, me posait beaucoup de problèmes, tout simplement parce que les produits viennent de Chine, de l'autre bout du monde, que souvent, ils arrivent en 2 ou 3 semaines chez le client, que niveau qualité, c'est forcément pas ce à quoi on s'attend, etc. Donc, finalement, je passais quand même beaucoup de temps en customer care, quoi, avec les clients derrière pour gérer les problématiques. On va dire la liberté que j'ai voulu avoir en quittant Capgemini, elle n'avait pas la même saveur que celle que je pensais trouver quand j'ai lancé mon projet, quoi. Donc, finalement, et en plus de ça, financièrement, c'était quand même galère, quoi. C'est-à-dire que je me payais pas forcément tous les mois. J'étais au RSA, donc je survivais avec ces petits montants là, quoi. Donc voilà, une époque un peu stressante, hein, on va dire.
Ça a duré combien de temps?
Ça a duré à peu près un an. Ouais.
Et comment tu t'es mis en mouvement du coup pour sortir de cette époque un peu galère?
Je me suis dit bon, ok, j'ai un an de d'activité, ça fonctionne pas. Ça fonctionne quand même parce qu'il y a des ventes, voilà, il y a des choses qui fonctionnent. Globalement, ça fonctionne pas assez pour que moi je puisse en vivre. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai appris des compétences, hein, pendant cette année, notamment beaucoup de compétences sur la partie e-commerce et marketing e-commerce, etc. Donc là, je me suis dit bon, je vais aller frapper à toutes les portes pour essayer d'aider des petits e-commerce finalement à se lancer sur internet et à grossir, quoi. Et en fait, les choses que j'avais pu voir tout seul en autodidacte en un an, j'ai finalement pu les mettre à profit d'autres. Et ça a commencé à bien fonctionner. Et là, j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose à faire là-dessus.
Donc là, du coup, tu t'es lancé en tant que freelance en gros marketing, exactement, si on peut dire.
Ouais. Surtout sur la partie acquisition, en fait, au départ. Et comme je te disais, j'ai frappé à toutes les portes. Donc, j'ai frappé à la porte d'une agence de grosse marketing qui s'appelle Grosse Room à Paris. Et en leur disant, voilà, j'ai fait ça. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse de travailler avec moi? Ils m'ont dit, on va tester sur un client. C'est ce qu'ils ont fait. Puis, ils se sont rendu compte que ça marchait bien. Donc, ils m'ont mis sur un deuxième client, puis un troisième. Et finalement, c'est eux qui m'ont un peu mis dans... Enfin, qui m'ont permis d'accélérer un peu sur cette activité de freelance. Voilà. Et après.
T'avais quel âge à cette époque-là?
J'avais 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça.
Et comment tes parents, ton entourage proche, ont vécu cette période à tes côtés?
Assez stressante pour eux, hein. Parce que justement, j'étais un peu sorti du système, on va dire, pour faire quelque chose qui était pas du tout sécure. Donc, assez stressant pour eux. Ils essayaient de m'encourager, mais. Pour le coup, ils me posaient quand même beaucoup de questions. Ils me partageaient quand même leurs doutes, donc moi, ça me faisait douter aussi, quoi. J'étais pas serein non plus en les écoutant, quoi.
Ouais. Et c'était quoi tes peurs à cette époque-là?
Mes peurs, c'était surtout de manquer, en fait, et de voir que potentiellement mes études auraient servi à rien, les études que m'ont payé mes parents, et de devoir retourner en fait dans ce système aussi par défaut, et de me dire ah mince, j'y retourne, quoi, c'est reparti.
Il y a un moment où tu t'étais dit allez, j'y retourne ou pas?
Non, j'ai essayé de pousser le plus possible, donc ouais, j'ai essayé vraiment de pousser le plus possible. Ça m'a appris aussi à vivre avec moi, ça m'a appris pas mal de choses quand même, ça m'a montrer qu'on en était capable. Et, Et puis, ça m'a appris à persister, quoi.
Sachant qu'à la base, du coup, tu t'es lancé sur le B2C. Donc, tes clients, c'était des clients.
Ouais.
Enfin, c'était des particuliers. Après, tu t'es spécialisé en B2B.
Ouais. Alors, en fait, ça, c'est... Tu as peut-être dû le remarquer sur les premières réponses que je t'ai fait là, sur cette première demi-heure, mais je suis quelqu'un qui a toujours été à la recherche de sens dans ce qu'il faisait. Je me suis beaucoup questionné sur l'écologie, en fait, sur ces années-là. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui m'a fait... J'avais une grosse dissonance cognitive à travailler sur des sujets de dropshipping par rapport à ça, quoi. Et en fait, même en accompagnant des clients en e-commerce, je me rendais compte que parfois, même très souvent, dans une grande majorité des cas, c'était des produits et des logiques de surconsommation, en fait. Hein, donc, même sur les techniques qu'on utilisait en marketing, c'était des techniques de surconsommation, de la promotion, travailler sur la psychologie, donc un petit peu tout ce qui faisait appel à l'urgence, etc. Du harcèlement.
Ouais, c'est des produits, on te dit, t'as une offre pendant 24 heures et il faut absolument que t'achètes maintenant tout de suite. Et quand tu vas sur AliExpress, tu vois que le produit est 10 fois moins cher.
Ouais. Après, donc, tous les clients avec qui je bossais ne faisaient pas du dropshipping, hein, d'ailleurs, ensuite, après le dropshipping. Mais donc c'était parfois même très souvent de la production locale ou française, etc. Mais c'était pour, à mon sens, hein, en tout cas, pas des produits donc les gens dont les gens avaient besoin, quoi, concrètement, hein, dans leur quotidien, etc. Donc je vendais du superflu, ça me dérangeait beaucoup. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je fais pour solutionner ça? Tu verras que je suis pas parti de. À chaque fois quand je fais des changements, c'est pas radical. Ça avance vers une quête de sens. Mais c'est pas radical. J'ai pas été encore capable de faire un changement radical où je me dis j'abandonne le digital pour aller créer un tiers-lieu ou une ferme, tu vois. Et on sait jamais, hein.
Tu n'as que 30 ans.
Exactement. Mais en fait, je me dis, plutôt que de faire du B2C, donc vendre des produits physiques superflus à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, peut-être plutôt partir sur du B2B. Et j'ai eu une opportunité grâce à Grossroom, d'ailleurs, à l'époque, de partir sur une mission comme ça. Et donc j'essaye de partir sur du B2B, de faire ces missions B2B. Et c'est vrai que ben, pour le coup, je trouve que voilà, ça fait plus sens. Déjà, ça répond un peu plus à ce que je recherche, à mon éthique, on va dire. Voilà, souvent c'est des produits plus pour des professionnels, des entreprises. Souvent elles répondent à des besoins assez concrets. C'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, mais en tout cas c'est le cas des clients, de la grosse majorité des clients avec qui j'ai travaillé. Et encore plus aujourd'hui. On y reviendra, mais encore plus aujourd'hui. Et du coup, voilà, je pars sur le B2B et je me spécialise là-dessus. Ça fait quelques années maintenant que je travaille sur des sujets B2B, plus que B2C.
Et donc là, t'étais freelance. À partir de quand tu te dis que du coup tu veux créer une Beyond Growth?
J'ai fait ensuite, je suis sorti de Grossroom parce que j'avais des opportunités ailleurs.
T'étais freelance pour eux ou t'étais salarié?
Ouais, j'étais freelance pour eux. Ouais. Donc j'arrête de travailler avec eux et je travaille vraiment que à mon compte. En fait, je suis toujours continuellement sur cette recherche de sens et d'impact dans ce que je fais parce que je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires sur l'écologie. Et donc je me dis, ok, faut faire quelque chose, quoi. Alors, en tout cas, faut que voilà, qu'on ait une transition. Donc je découvre des projets comme Time for the Planet, par exemple. Et je me mets en contact avec eux. Je vivais à Lyon à l'époque, ils sont lyonnais. Donc, je me mets en contact avec eux. Je suis leur leurs conférences, etc. Et je me dis, il faut absolument que je les aide, quoi, parce que j'ai trop envie de... Moi, c'est ce qu'il me faut, quoi. C'est du sens comme ça qu'il me faut. Donc, je commence à les aider. Je trouve ça génial, la communauté est géniale. Il y a un vrai sens. Je commence à prendre contact avec des entreprises, avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus sur des sujets voilà, d'impact, d'écologie, d'impact social. Du coup, je travaille voilà, avec de plus en plus d'entreprises comme ça. Donc, Make Sense, par exemple, Plume Labs, qui est une startup qui fait de la sensibilisation, de la mesure de pollution atmosphérique et de la sensibilisation à ces sujets-là, et qui vendent aussi de la donnée aussi à des groupes type AccuWeather, groupes de météo, prévision météo. Donc voilà, de plus en plus je travaille sur ces sujets-là, et donc je me positionne aussi là-dessus, et donc je me présente aussi sur ces sujets-là, notamment sur LinkedIn. Et sur les différents contenus que je commence à réaliser, parce que je me rends aussi compte que progressivement que le personal branding est assez est important, qu'il faut se rendre visible pour pas toi avoir à chercher tes clients, mais pour que tes clients viennent à toi. Et on me contacte, donc c'est l'année dernière en août, c'est Clément Auchard qui me contacte de Jumanji Studio. Jumanji Studio, c'est un startup studio qui crée des projets à impact environnemental, a priori. Donc, il me contacte en me disant, écoute, voilà, on a ces boîtes-là qu'on a créées qui ont besoin d'aide pour se développer, pour grossir, pour être visible sur Internet. Est-ce que tu penses que tu peux nous aider? Ça peut être l'occasion de créer... une autre boîte, du coup, là-dessus, sur ces sujets-là, des sujets de croissance. Donc, moi, je leur dis, je dis à Clément, carrément, on commence.
Donc là, l'idée, c'est que tu intègres, du coup, ce startup studio pour créer ta boîte.
Exactement, ouais. Okay. Donc, pour eux, c'est la création d'une nouvelle boîte, ouais. Voilà, qui vient compléter leur portfolio.
C'est quelque chose dont tu avais rêvé un jour?
Disons que c'est pas un rêve, mais c'est vrai que avec ces années de freelance et la recherche de sens, je me suis dit un jour il faudrait que je me positionne à 100% là-dessus. Mais j'avais pas assez d'opportunités de le faire et j'avais pas ce cadre et cette obligation de le faire en fait. Donc, j'avais beaucoup de projets qui arrivaient de part et d'autre, qui n'étaient pas forcément impact, mais qui étaient durs pour moi. C'était dur pour moi de les refuser parce que ça restait des beaux projets. Voilà, j'ai bossé par exemple pour des startups de la Société Générale ou de groupes comme ça qui voulaient un peu créer des entreprises pour être plus des startups pour être plus compétitives. Donc c'est des beaux projets hein, sur le papier que j'avais du mal à refuser parce que je m'étais pas mis ce cadre, cette obligation de vraiment bosser à 100%. C'était dans un coin de ma tête, mais c'était pas encore fixé. Et le fait de le faire avec Jumanji Studio, en créant Beyond Growth, du coup, c'était l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, je travaille exclusivement sur des entreprises à impact environnemental ou social. Voilà. Même si cette notion, elle est parfois compliquée à définir.
T'as eu des peurs au moment de les rejoindre?
Ouais. Ouais, ouais. J'ai eu des peurs. Bon, déjà, c'est vrai que créer son entreprise par rapport à être en freelance, c'est un step. C'est surtout aussi sur sur la notion d'impact en soi. C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui, c'est-à-dire que je veux gagner ma vie, je veux gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Mais ce qui vraiment m'intéresse, ma motivation profonde, c'est avoir un impact positif sur l'environnement et la société. Et comment on fait ça? Et c'est très compliqué de se dire comment on fait ça quand on fait du marketing, quoi. Parce que par définition, le marketing, c'est un peu ça pousse vers plus de consommation, quoi, a priori. Donc, je suis encore toujours en réflexion sur ces sujets-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer à chaque fois et pour vraiment aller dans le bon sens, quoi. Aujourd'hui, on est dans un process de labellisation, par exemple. C'est une première étape, ce ne sera certainement pas la dernière.
Pour être labellisé, quoi ?
Bicorp.
D'accord.
Voilà. Bicorp, qui est un des labels de référence, on va dire, sur ces sujets.
Ouais. Donc, aujourd'hui, du coup, tu arrives à vivre avec cette nouvelle entreprise ?
Oui, mais grâce à Jumanji Studio. Parce que Jumanji Studio est là derrière, elle nous a aidé dès le début en fait à pouvoir fixer nos salaires. Quand je dis nous, c'est parce que du coup j'ai continué les discussions avec l'ami dont je te parlais tout à l'heure, qui lui avait créé Pixter, qui a lâché Pixter quelques années après parce que la concurrence des constructeurs mobiles était beaucoup trop importante. Et donc j'avais envie d'avoir quelqu'un à mes côtés. Qui avait de la bouteille, on va dire, sur l'entrepreneuriat. Il était disponible, donc je lui ai proposé de rejoindre le projet. Et il a dit oui. Donc voilà, dès le début, on a pu poser nos conditions, notamment avoir des salaires décents, travailler sur un branding, bien préparer notre site internet, notre communication, etc. Donc avoir les fonds nécessaires grâce à Jumanji Studio. Et aujourd'hui, on vit de notre entreprise. On a eu une trentaine de clients depuis le début de l'année. Donc pas de souci, on génère du revenu.
Mais vous êtes tous les deux, du coup ?
On est tous les deux. Mmh. On a recruté un alternant aussi qui nous aide là depuis le mois de septembre. Et puis on travaille avec une quinzaine de freelances. Donc voilà.
Et ça fait quoi de se retrouver du coup de l'autre côté de la barrière ?
Il y a pas mal de choses qu'on comprend, qu'on avait du mal à comprendre quand on était freelance. Voilà. Typiquement, la marge que peuvent se faire les agences, les collectifs sur les freelances. En fait, voilà, il faut aussi comprendre que tout le processus de vente, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est relation avec le client, tout ce qui est synchronisation, en fait, c'est l'agence qui s'en occupe. Et donc ça, le freelance, il a un peu de mal à comprendre. Et il se dit, tel client paye ce prix-là, mais si on travaillait directement ensemble, lui et moi, il paierait beaucoup moins cher. Et moi, peut-être que potentiellement, je pourrais aussi prendre une plus grosse part du gâteau. Mais en réalité, moi, j'avais du mal à comprendre vraiment la plus-value des agences. Maintenant, je me rends compte de pourquoi tu commences, quoi. Donc, on se rend compte de certaines choses auxquelles on avait du mal à comprendre avant.
Et l'association, du coup, avec un ami, ça se passe comment ?
C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, d'autant plus qu'on a essayé de lancer plusieurs projets entrepreneuriaux avec Tristan et comme on est très proches, on a parfois eu un peu des guerres d'ego, on va dire. Donc, il a fallu gérer ça. Il faut encore le gérer parfois et on apprend à le faire. Pour le coup, je pense qu'on apprend énormément là-dessus, tous les deux. Et puis, je dirais que ça pousse aussi à super bien s'organiser, à super bien définir les rôles de chacun, etc. Donc, c'est le travail qu'on a fait récemment là et qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'être sur une relation pro et perso qui fonctionne.
Ouais.
Voilà.
Et comment t'écoutes ton intuition ?
J'ai tendance à beaucoup l'écouter quand même. Ouais. J'ai tendance à beaucoup l'écouter, surtout depuis que j'ai quitté Capgemini, du coup. C'était un peu l'écoute de mon intuition, quoi. C'était un peu l'écoute. Je me suis pas trop pris en compte des critères rationnels pour faire ce choix-là. C'était plus de l'intuition. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait, quoi, aujourd'hui. Donc j'ai tendance à quand même pas mal écouter mon intuition et généralement je suis assez quand je fais ces choix-là de l'intuition, c'est des choix que je regrette pas pour le coup.
Comment tu célèbres tes réussites ?
Je les célèbre pas assez. Je les célèbre pas assez parce que je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste Et quand j'ai des réussites, j'ai tendance à me dire que c'est normal en fait d'en avoir et que du coup, voilà, faut continuer quoi. Il faut continuer. Il y a toujours un autre objectif ensuite. Et je suis en train de faire ce travail justement là à mes 30 ans d'essayer de lâcher un peu prise et de me dire que la perfection n'existe pas et qu'il faut aussi prendre le temps, il faut aussi voilà, ouais, lâcher prise et peut-être célébrer un peu plus et peut-être profiter un peu plus du parcours plutôt que tout le temps avoir la tête rivée vers des objectifs.
Voilà. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a plein de moments où je me suis dit ça. Il y a plein de moments. Typiquement, bah, ce podcast. Pourquoi pas moi discuter avec toi aujourd'hui? Voilà. L'année dernière, j'ai été approché pour donner un cours chez HEC, qui est l'école de commerce la plus prestigieuse en France. Et j'avais un syndrome de l'imposteur incroyable. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai hésité, je me suis dit pourquoi pas moi, et je l'ai fait. J'ai vu que tu avais participé à un TEDx, si je me trompe, Charlotte.
Ouais.
On m'a proposé aussi potentiellement d'en faire un. Enfin, là,
génial.
Je suis dans un process là pour essayer d'en faire un.
Là, sur quelle thématique?
Sur la thématique de la chance. Comment provoquer sa chance? Donc, c'est un sujet... Charlotte, je sais
ouais, je suis toujours là, je t'entends, ouais, c'est bon. Allô?
Je suis toujours là.
Ouais. On a eu un petit problème technique. Tu disais du coup qu'on t'avait contacté pour faire un TEDx sur la thématique de provoquer sa chance.
Ouais, c'est ça. Alors, très précisément, on m'a proposé de participer en un process de recrutement pour un TEDx. Donc là, je sais pas encore si je vais y participer ou pas, mais en tout cas, je suis a priori dans la shortlist. Et effectivement, c'est le sujet, c'est provoquer sa chance. Pas mal de choses à dire là-dessus.
Et t'as envie de raconter quoi?
J'ai envie, je pense, de raconter un peu l'histoire que j'ai commencé à raconter sur un post LinkedIn qui a énormément marché dernièrement. Je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as contacté, Charlotte. Et c'est aussi ce que j'ai commencé à expliquer dans cette première phase là de l'entretien avec toi. C'est-à-dire un peu la période où j'ai quitté Capgemini, où pas mal galéré avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire être à la tête de Beyond Growth et de faire travailler quasiment une vingtaine de personnes aujourd'hui sur 30 clients différents. Donc, voilà, expliquer que on peut provoquer sa chance même en étant dans les situations les plus inconfortables. Voilà. On va parler un peu de ça. Maintenant, je ne suis pas hyper d'accord sur le fait de dire que c'est facile. Enfin, on peut provoquer sa chance. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de méritocratie. Je pense que le fait d'être né en France, déjà, dans une famille et une situation stable dans une région où... super bien, on a la chance d'avoir une maison, enfin j'ai un confort incroyable par rapport à une situation incroyable par rapport à d'autres personnes et voilà, c'est juste simplement la chance d'être né au bon endroit et ça a pas pu être provoqué quoi, tu vois. Après c'est qu'est-ce que tu fais de ça?
Oui, c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie, des opportunités, voilà. Est-ce que tu saisis les opportunités, est-ce que tu te mets au bon endroit pour pouvoir...
Exactement. Donc, est-ce que tu te reposes sur tes lauriers? C'est le cas, par exemple, de l'anti-mentor dont je te parlais tout à l'heure, le dev qui a une place confortable et qui, du coup, potentiellement, pourra rester dans cette place-là toute sa vie, une grande partie de sa vie. Ou est-ce que tu vas chercher une situation qui te correspond, tu vois, qui correspond à qui tu es vraiment?
Ça me parle beaucoup, même si tu vois, je suis dans une approche hyper, je cherche le positif partout, mais ça me parle beaucoup cette approche d'anti-mentor parce qu'en effet, il y a des gens dans la vie professionnelle ou personnelle, dans des situations où tu te dis, je veux mais tellement pas être, enfin vraiment c'est vraiment tu dis mais je veux tellement pas être comme ces personnes, et ça permet en effet d'apprendre à mieux se connaître aussi, d'avoir ce type de personnes, ça te permet de te dire ok, ça c'est no way.
Exactement. Ouais, c'est ça. Et finalement, en fait, moi, je pense que je pourrais avoir plein de mentors différents. Parce que je suis hyper curieux. Je sais que je pourrais faire plein de choses différentes. J'ai envie d'apprendre plein de choses différentes. Et donc, le fait de se dire, ah, bah, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est intéressant. Typiquement, c'est pas un anti-mentor, cette personne-là. Bah, ça me permet de me dire pourquoi pas. Mais, par exemple, si je réfléchis à un poste à la Défense, dans du consulting en finance, tu vois, par exemple, bah, ça, c'est du no-go, quoi. Pour moi, c'est totalement le type de situation dans laquelle j'ai pas envie de me retrouver, quoi. Donc, voilà.
C'est quoi pour toi la réussite, du coup, aujourd'hui?
Peut-être pour la définir, expliquer un peu comment elle a évolué, cette définition de la réussite chez moi, depuis que je suis plus jeune, plus petit. Je dirais qu'avant, j'étais un peu bercé par la télé, hein, quand j'étais plus jeune. Et que du coup, mon type de réussite, c'était j'avais envie de devenir célèbre et riche, concrètement, quoi. Donc, et en fait, je cherchais un peu une bonne manière de devenir. J'ai toujours été très attiré par la musique, et notamment par la musique un peu électronique. Et en fait, quand je voyais Daft Punk, par exemple, qui est un groupe que j'adore depuis que je suis petit, je me disais, j'ai envie d'être comme eux, en fait. Il va falloir que je travaille pour être comme eux. Et je dirais que j'ai pas suffisamment travaillé pour être comme eux. Ou en tout cas, voilà, j'ai pas creusé assez bien ça, mais j'ai, petit à petit, j'ai continué à faire évoluer cette définition de la réussite. Toujours beaucoup lié à l'argent, en fait, même quand j'étais un peu... encore quand j'étais un peu sur la partie dropshipping, où je me disais, bah voilà, c'est la méthode facile de faire de l'argent, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Mais en fait, à partir de ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que la réussite financière, ça pouvait se faire au détriment d'autres valeurs plus importantes, qui sont une éthique sociale, une éthique environnementale. Aujourd'hui, ma vision de la réussite, c'est d'être justement proactif sur ces sujets-là, d'être acteur de ces sujets-là. J'ai encore pas mal de doutes sur est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Est-ce que même avec Beyond Growth, pour l'instant, j'ai la sensation que, alors, on travaille pour des boîtes qui sont pour le coup des très bons acteurs de la transition, en tout cas sur des sujets environnementaux et sociaux, mais je peux avoir aussi parfois la sensation qu'on contribue à la croissance verte, auquel je crois pas vraiment. Donc j'ai envie de continuer à définir ça et à voir à quel point on y contribue, à quel point on a de l'impact. Pour moi, aujourd'hui, la réussite, ça sera vraiment ça. Ça sera vraiment quand je serai fier de je suis de plus en plus, hein, mais quand je serai fier à 100% de ce que je fais professionnellement parlant, quoi. Notamment. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Théo de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui?
Je m'attendais pas du tout à être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense qu'il comprendra rien ce que je fais aujourd'hui, quoi, concrètement. Mais que, au fond, j'ai affirmé ma personnalité, j'ai affirmé mes valeurs, et que du coup, il serait fier de moi par rapport à ça, quoi. Et il verrait que, je me considère comme c'est encore une fois subjectif, mais j'ai la sensation d'être une bonne personne, et je pense qu'il serait fier de moi par rapport à ça.
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui?
Renoncement parfois à mon confort personnel au profit de parfois du bien commun, en tout cas de mes convictions qui, j'ai le sentiment, vont dans le bon sens. Typiquement, je ne prends plus l'avion. J'ai la grosse majorité de mes amis qui continuent à le prendre pour aller en vacances, etc. Moi, j'ai plus envie de le prendre. Du coup, je peux être exclu un peu des plans, quoi, concrètement. Et puis, enfin, ouais.
Sachant que ce qu'on disait hors micro, c'est que tu habites à Valence, que tes parents habitent dans le centre de la France, donc c'est...
Bah ouais, pour venir les voir, bah, par exemple, voilà, je suis arrivé hier ici, et j'ai mis quasiment 2 jours pour venir. Donc, j'ai fait un premier arrêt à Barcelone, en train, et de Barcelone à Lyon ensuite en train hier, et j'ai terminé en train, toujours en train, en fin de journée. Donc voilà, c'est ça, un renoncement à voyager rapidement, déjà. je suis végétarien aussi, pas envie de faire du... Ouais, ok. Voilà, des renoncements, ouais, c'est ça, un peu de confort personnel. Ce que je disais aussi, c'est que je suis végétarien aussi, donc plus par conviction, parce qu'en réalité, j'adore la viande, quoi. Enfin, j'adore manger de la viande, mais parce que je sais qu'il faut qu'on, voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on change, notamment pour moi, les 2 grosses actions qu'on peut avoir au niveau individuel, c'est effectivement le transport et puis l'alimentation. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a globalement le fait d'être plus responsable sur nos consommations, donc sobrement, on va dire. Il y a l'énergie, etc. Mais ça, j'y vais petit à petit, on va dire. Mais les 2 grosses actions que j'ai prises à niveau personnel, c'est celles-là. Et ça m'empêche pas de vivre et de bien vivre. Mais j'ai pris conscience que je ne pouvais pas faire tout ce que je pouvais faire. Quoi. Je pense que c'est important qu'on en prenne tous conscience et qu'on se rende compte que nos vies, elles sont pas invivables, qu'on vit pas moins bien comme ça. C'est pour ça que je le fais, pour essayer de montrer aux gens que je vis quand même super bien, que je suis heureux et que voilà, c'est pas si terrible en fait. Hein.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
Honnêtement, je me considère assez chanceux de pas avoir eu de très grosses difficultés dans ma vie. J'ai eu des difficultés comme tout le monde. Voilà, des difficultés professionnelles, des doutes, des moments où je me cherchais, des décès, etc. J'en ai eu, mais c'est des choses normales en fait dans une vie, on va dire. J'ai vraiment de la chance de pas avoir eu de très grosses difficultés. Je pense que j'ai en ce moment, depuis le début de l'année, depuis mes 30 ans, une crise existentielle qui s'est confirmée, on va dire, et sur laquelle j'essaye de travailler.
Tu fais quoi du coup pour ça?
Je vais consulter une psy, notamment, qui m'aide beaucoup. Et j'essaie de travailler sur moi-même, de changer certains aspects de ma personnalité, quoi, grâce à ça. Notamment le fait que je suis quelqu'un de perfectionniste et que j'essaie de travailler un peu là-dessus pour me laisser un peu vivre. Et laisser vivre les autres aussi. voilà. Et puis, une grosse angoisse sur les sujets environnementaux. Donc aussi essayer de traiter ça et de voir comment est-ce que je peux faire pour transformer cette angoisse en action, quoi. Et ça, c'est un peu ce que j'ai commencé à faire avec Beyond Growth, c'est un peu ce que j'avais commencé à faire un peu avant, et petit à petit j'essaie d'être encore plus acteur de ça.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais de l'équilibre global que j'ai trouvé, que je trouve dans ma vie. Le fait d'être une personne de référence, je dirais aussi pour beaucoup, pour mes proches, etc. Et pour les gens avec qui je travaille, les gens que je côtoie, d'apporter de l'aide, du soutien. Voilà, je pense être une personne entre guillemets influente dans le bon sens, je l'espère, même si je suis conscient que tout ce que je fais n'est pas voilà, on a tous des choses à améliorer, Mais en tout cas, j'essaie d'avancer dans le bon sens et je pense que j'essaie de montrer cette voie-là aux gens qui m'entourent. Et j'ai la sensation que ça fonctionne et que les gens sont assez reconnaissants de ça. Donc, je suis content de pouvoir le faire. Je suis assez fier de ça. Ouais.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Qu'on m'ait donné ?
Wow.
C'est des questions qui sont compliquées à répondre. Hein. Donc, là, c'est à chaud comme ça.
Et justement, c'est pas préparé comme ça. C'est ça qui est, c'est la spontanéité qui parle.
Ouais. Bah, je dirais justement de lâcher un peu cette perfection. Enfin, cette quête de la perfection. Voilà. Voilà. Parce que je peux être assez pas assez indulgent envers moi-même et envers les autres souvent et donc c'est une source d'angoisse quoi, donc lâcher un peu cette quête de la perfection, car la perfection n'existe pas de toute façon. Voilà.
Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu aimerais donner aujourd'hui ?
Le conseil que j'aurais aimé recevoir et que j'aimerais donner aujourd'hui, waouh ! Je dirais que reparler un petit peu de la sobriété en disant que c'est un mot qui peut faire peur, par exemple. Mais en soi, quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière, on se rend compte que on vit beaucoup mieux en visant cette sobriété. Pardon, pour la chaîne. On vit beaucoup mieux en visant cette sobriété, quoi. Voilà, je pense qu'on s'allège de pas mal d'injonctions. Voilà, et je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt et que j'aimerais continuer à entendre autour de moi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je l'entends, je le vois beaucoup sur LinkedIn notamment, etc., parce que c'est cette plateforme où je passe beaucoup de temps et où je vois beaucoup d'écolos émerger de plus en plus, mais autour de moi dans la vie quotidienne moins, et j'aimerais l'entendre aussi un peu plus. Et comprendre aussi, faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas forcément qu'on ait peur et qu'il faut qu'on essaie d'être, qu'on vise de l'adaptabilité et la résilience. Typiquement, on s'en est rendu compte sur la période du Covid où on a tous été confinés, une grande partie de la planète confinée, on a réussi à vivre comme ça. Ça a été dur. Je sais qu'il y a eu forcément des séquelles psychologiques, notamment pour les gens. Mais en fait, on s'est rendu compte que collectivement, on peut s'adapter à des besoins, à des urgences, et on peut en sortir grandi, et on peut en sortir avec de nouvelles opportunités, j'ai envie de passer ce message-là, en fait, qu'on peut s'adapter à toutes circonstances, quasiment toutes, et qu'on peut être résilient.
Ça, c'est sûr. Dans la vie, il faut chercher les cadeaux mal emballés et se dire, OK, comment je fais de chaque situation quelque chose de positif, et parce qu'il y a du positif dans tout, et on a de la force qu'on n'imagine pas au fond de nous.
Tout à fait.
C'est quoi tes prochains défis ?
Mes prochains défis, ça va être de transformer Beyond Growth, de faire en sorte que Beyond Growth soit une entreprise qui peut donner un exemple sur pas mal de sujets, sur ses offres, sur sa gouvernance, sur son identité, sur la relation qu'elle a avec ses clients, avec ses partenaires. Donc montrer que Beyond Growth, c'est vraiment une entreprise qui va dans ce sens-là. Voilà. et trouver ma place du coup et vraiment le mon éthique grâce à ça.
Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous?
Ouais, j'en ai plusieurs. Dernièrement, là, j'ai acheté le livre de Timothée Parik. Alors, j'ai juste pas le titre en tête puisque je l'ai reçu récemment, mais je l'ai. Voilà, Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance. Timothée Parik, c'est un économiste écologique, qui parle beaucoup de la décroissance. C'est un peu son cheval de bataille. Donc, il explique dans ce livre qu'est-ce que la décroissance. Donc, déjà, qu'est-ce que la croissance? Qu'est-ce que le PIB? Pourquoi il y a des limites, en fait, là-dessus, sur cet indicateur qui est un peu clé chez nos États? Pourquoi ça a plus de sens, en fait, de viser la croissance du PIB? Et du coup, qu'est-ce que la décroissance en opposition à ça? Et comment ça prend plus en compte l'humain, l'écologie, etc. Et donc, la lecture est super intéressante et j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais je vous invite vraiment à jeter un œil.
Top. Merci beaucoup, Théo. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Merci à toi pour cette invitation, déjà.
Avec plaisir.
Merci à toi. Merci à toutes les entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui, qui me donnent l'opportunité d'avoir plus d'impact, et j'espère leur donner aussi l'opportunité d'en avoir. Donc, je pense qu'on s'entraide mutuellement, c'est super important. Merci à elles, et puis merci à tous mes proches et ma famille de me soutenir.
Merci beaucoup, Théo.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!